السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Voici arrivé à cette quatrième assise dans cette série et en poursuite, qu'est-ce que l'hérésie, l'innovation en religion? Et consiste essentiellement la traduction du livret intitulé « Ta'rif al-Bid'a wa bayani ahkamiha wa anwa'iha » du noble cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. La fois dernière, nous avons abordé des sujets très importants concernant, premièrement, la position des adeptes de la Sunna et du groupe uni sur la vérité à l'encontre des hérétiques. Et, dans un second temps, la méthodologie des adeptes de la Sunna et du groupe uni sur la vérité dans les répliques qu'ils adressent justement aux partisans de l'hérésie. Et il est important de revenir à plusieurs reprises sur ce genre de sujet-là, afin que ces différents principes soient bien compris, assimilés et retenus, et également mis en pratique par la suite. Et c'est d'autant plus important que nous pouvons déplorer à notre époque le fait que de nombreuses mauvaises conceptions soient propagées, y compris dans les rangs de ceux qui se réclament du suivi de la voie des pieux prédécesseurs de cette communauté. Et bien souvent, les paroles étranges et discours étrangers à la méthodologie des adeptes de la Sunna sont propagés et sont même admis du fait que justement ces préceptes fondamentaux régissant la voie des pieux prédécesseurs de cette communauté ne sont pas toujours bien assimilés. Et c'est donc pour cela qu'il est important d'y revenir à plusieurs reprises. Nous entrons donc ce soir, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, dans le quatrième chapitre, concernant l'exposé de certains exemples d'hérésie contemporaine. Le chien donc a fait mention de certains exemples. Premièrement, la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, la recherche de la bénédiction auprès des lieux et des vestiges et également des défunts. Troisièmement, les hérésies qui sont propagées dans le domaine des pratiques culturelles et dans tout ce qui a trait à la manière par laquelle on cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les hérésies à notre époque sont nombreuses du fait que nous vivons à une époque qui est éloignée de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du fait de la diminution du savoir et au contraire de l'abondance de gens appelant justement aux hérésies et autres pratiques étrangères à la voie prophétique. L'abondance des hérésies à notre époque est également causée, comme nous l'avons vu, par le fait que bon nombre de gens se sont mis à imiter les mécréants dans leurs habitudes et dans leurs coutumes, et ce conformément à ce qu'avait annoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Vous suivrez certes les pas de ceux qui vous ont précédé. » Donc nous allons aborder dans un premier temps le sujet de la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le mois de Rabi al-Awwal. À la base, ce qui était prévu, c'est que nous abordions ce quatrième chapitre il y a deux ou trois jours de cela, ce qui aurait peut-être été préférable afin justement de clarifier ce point-là avant que cet événement n'ait lieu, mais cela n'a pas été possible. Et de toute manière, ce point-là a été exposé par nombre d'acteurs de la prédication francophone qui se sont fait des relais, jazakumullahu khayran, des discours tenus par les ulama de la sunna à propos de ce point-là. Mais il n'y a pas de mal justement à y revenir, afin justement de se remémorer les argumentations avancées par les ulama pour contrer cette pratique hérétique. La célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le fruit de l'imitation des Nazaréens, al-Nasara. On utilise le terme Nazaréen qui est plus précis pour traduire le terme Nasara que le terme chrétien. Car le terme chrétien, c'est l'équivalent français du terme arabe al-Masihiyoun, les suiveurs du Messie. Et il n'est pas correct de qualifier les Nazaréens d'être des suiveurs du Messie, du fils de Maryam, Isa, Jésus, alayhi salam. Il est donc plus précis ici de dire Nazaréen. Revenons donc au sujet la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette pratique est le fruit de l'imitation des Nazaréens. Un certain nombre d'ignorants parmi les musulmans et un certain nombre de ulama, de savants égarés et participant également à l'égarement des autres, célèbrent à l'occasion du mois de Rabi al-Awwal chaque année la naissance du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certains célèbrent cette occasion-là dans les mosquées, d'autres dans les maisons et d'autres dans des salles prévues à cet effet. Et de nombreuses personnes prennent part à cette fête commémorative parmi les gens de la masse. Et ils font cela par imitation des Nazaréens qui avaient inventé justement la célébration de la naissance du Messie, alayhi salam. De manière générale, et la plupart du temps, en plus d'être une pratique hérétique et relevant de l'imitation des Nazaréens, cette pratique-là et ces événements-là qui sont organisés et célébrés ne sont pas dépourvus d'actes polythéistes et blâmables. C'est ainsi que, durant ces réunions-là, des poèmes sont récités contenant des compliments exagérés à l'attention du messager sallallahu alayhi wa sallam, à tel point que certains en arrivent à l'invoquer et à chercher secours auprès de lui en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de lui adresser des compliments de manière exagérée. Il a en effet dit sallallahu alayhi wa sallam: ne m'adressez pas des compliments de manière exagérée comme l'ont fait les Nazaréens avec le fils de Maryam. Il continua sallallahu alayhi wa sallam en disant: je ne suis que son serviteur. Dites donc, le serviteur d'Allah est son messager. Donc c'est le terme al-ifra qu'il a utilisé ici. Al-ifra, il a dit la tufrouni. Et al-ifra, ça a pour sens justement le fait d'exagérer dans les compliments que l'on adresse à quelqu'un. Il est possible également que les gens qui prennent part à ces célébrations-là aient la conviction que le messager sallallahu alayhi wa sallam y participe. Parmi les chose blâmable que l'on retrouve dans ces célébrations-là, les chants qui sont entamés à l'unisson de manière mélodieuse, avec des gens qui tapent sur des tambours, et d'autres qui en viennent à formuler des formules de rappel, soufis et hérétiques. On peut également trouver à ces occasions-là de la mixité entre hommes et femmes, ce qui va causer des troubles et mener même parfois à ce que certains d'entre eux tombent dans la turpitude. Même si ces célébrations-là étaient dépourvues de tous ces interdits que l'on vient de citer, et qu'au final, il n'y aurait que des gens qui se réunissaient pour manger ensemble et faire apparaître leur joie, comme ils le prétendent et le disent, il n'en est pas moins que ces célébrations-là resteraient des pratiques hérétiques. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute invention en religion est une hérésie, et toute hérésie est un égarement. D'autant plus que, bien souvent, même si elles sont dépourvues de toutes ces pratiques mauvaises que l'on a citées au préalable, elles mènent forcément vers d'autres choses mauvaises. Car petit à petit, ces célébrations-là évoluent, et même vers des actes répréhensibles. Nous avons dit que la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une hérésie étant donné qu'elle n'a pas de base dans le livre, le Coran, dans la Sunna et dans la pratique des faits prédécesseurs à Salaf al-Salih de cette communauté, et qu'elle n'a aucune base, cette pratique-là n'a aucune base qui nous renverrait vers l'époque des générations privilégiées, Al-Qurun, Al-Mufaddala. Quand on parle de Al-Qurun, Al-Mufaddala, générations privilégiées, on vise les trois premières générations de cette communauté, auxquelles le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion, en disant, les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis ceux de la génération qui suit, puis ceux de la génération qui suit. Donc il a cité les trois premières générations. Et on appelle ça donc les générations privilégiées. La pratique de la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'existait pas à leur époque. Donc elle n'a aucune base, ni dans le livre, ni dans la sunna, prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans les œuvres accomplies par les pieux prédécesseurs de cette communauté, as-salafu s-salih, et n'existaient pas à l'époque des générations privilégiées. Elle n'est apparue qu'à l'époque de la quatrième génération, quatrième siècle, et ce sont les Fatimides, les chiites, qui l'ont instauré. L'imam Abu Hafs, Tajuddin al-Fatihani, Allah lui fasse miséricorde, a dit, on peut le trouver dans l'épître intitulée Al-Mawrid, Fi Amal al-Mawrid. Après avoir introduit son sujet, il a dit ensuite, la question à propos du fait de se réunir, comme le font certaines personnes durant le mois de Rabi al-Awwal, à l'occasion de ce qu'ils appellent la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Mawlid, s'est répété, donc cette question s'est répétée. Est-ce que cette pratique-là a une base dans la religion? Et ceux qui m'ont posé la question ont cherché de moi que je développe le sujet et que je le clarifie de manière spécifique. J'ai donc dit, sachant que c'est Allah qui prodigue la réussite, je ne connais pas de base légitimement al-Mawlid, donc la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans le livre, ni dans la sunna. Et cela n'a pas été rapporté des ulama de cette communauté. Ça n'a été rapporté d'aucun d'entre eux. Parmi ces ulama qui sont des modèles dans la religion, qui suivent de manière scrupuleuse les traces de ceux qui les ont précédés. Cette célébration-là est plutôt une hérésie inventée par les fainéants. Et l'assouvissement d'une passion par laquelle les opportunistes cherchent à amasser des biens. Fin de citation. Le chef de l'Islam, je l'ai mis, Allah lui fasse miséricorde, a dit, comme on peut le trouver dans l'Iqtibar, As-Sirat al-Mustaqim, en parlant justement donc de la célébration de la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam, sachant que certaines personnes ont instauré comme pratique, soit pour concurrencer les Nazaréens à la célébration de la naissance de Isa, alayhi salam, soit en cherchant par là à exprimer leur amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la manière qu'ils ont de le vénérer. Cette pratique-là a été instaurée alors que les gens à la base divergent quant à la détermination du jour de sa naissance. Et il faut savoir que cette pratique-là n'a été adoptée par aucun des anciens de cette communauté, As-Salaf. Les anciens de cette communauté n'ont pas eu recours à ce genre de pratique-là. Et si cette pratique-là constituait un bien pur ou un bien dont les bénéfices prévaudraient sur les mauvais côtés. Dans le sens où ce ne serait pas un bien à part entière, mais les bénéfices que cette pratique contiendrait seraient plus importants que les mauvais aspects qui s'y rattachent. À ce moment-là, les anciens de cette communauté l'aurait célébré avant nous. Car leur amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la vénération qu'il lui vouait étaient plus prononcés que les nôtres, de même qu'ils étaient plus enclins à accomplir le bien. Cependant, l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, la vénération du prophète sallallahu alayhi wa sallam se manifeste par son suivi, par son obéissance, par le suivi de ses ordres, et la revendication de sa sunna, aussi bien de manière intérieure, en la pratiquant, déjà de manière intérieure dans tout ce qui a trait aux œuvres intérieures qui ne sont pas apparentes. Donc là, l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, la vénération du prophète alayhi salatu wassalam, ça se manifeste dans son suivi, dans son obéissance, dans le suivi de ses ordres, et dans la revivification de sa sunna aussi bien de manière intérieure qu'apparente, ainsi que dans le fait de chercher à diffuser et propager son message, et à lutter pour cette cause-là avec le cœur, avec les membres et avec la langue. Et c'est là la voie que les tout premiers croyants parmi les émigrés al-Muhajirun et les auxiliaires al-Ansar et ceux qui les ont suivis de manière convenable ont emprunté. C'est cette voie-là qu'ils ont emprunté. Et c'est comme cela qu'ils exprimaient leur amour et leur vénération du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fin de citation, donc des propos d'Ibn Taymiyyah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. De nombreux livres ont été écrits dans la condamnation de cette hérésie. Aussi bien à l'époque des anciens de cette communauté qu'à la maintenant. Et il faut souligner également qu'en plus d'être une hérésie et d'être une forme d'imitation à l'égard des Nazaréens, la célébration de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam mène à la célébration d'autres anniversaires, comme l'anniversaire de naissance des saints ou des cheikhs ou encore des chef d'État ou autre. Ça ouvre donc la porte vers de nombreux mots. La seconde pratique hérétique dénoncée par le cheikh dans ce quatrième chapitre, c'est ce que l'on appelle at-tabarruk. At-tabarruk, le fait de chercher la bénédiction. Le fait de chercher la bénédiction auprès des lieux, des vestiges et des individus, soit vivants ou morts. At-tabarruk, donc c'est la recherche de al-baraka. Al-baraka, donc c'est la bénédiction. Et on vise par al-baraka, la bénédiction, la stabilité et l'augmentation du bien. La stabilité et l'augmentation. Et l'augmentation du bien. Donc, rechercher les bénédictions, at-tabarruk, c'est rechercher la stabilité du bien et son augmentation. Et il faut savoir que cela ne peut se chercher qu'auprès de celui qui détient justement le pouvoir de faire se stabiliser le bien et de le faire augmenter. Et il n'est autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est celui qui fait descendre la bénédiction et la stabilise. Quant aux créatures, elles n'ont pas le pouvoir d'octroyer la bénédiction, de la faire apparaître, de la faire se stabiliser et de la faire perdurer. Donc, rechercher la bénédiction auprès des lieux, des vestiges ou des personnes, qu'elles soient vivantes ou mortes, n'est pas permis, car cela relève du polythéisme al-shirk. Ou constitue une voie menant au polythéisme al-shirk. C'est une forme de polythéisme si celui qui a recours à cette pratique-là a la conviction que cette créature, que ce soit ce lieu ou ce vestige ou cette personne vivante ou morte, a le pouvoir d'octroyer la bénédiction. Et c'est une voie menant au polythéisme si la personne qui y a recours a la conviction que, en visitant ce lieu duquel elle cherche la bénédiction, ou qu'en se frottant à ce vestige ou à cette personne, ou en y frottant par exemple ses effets personnels, ses habits ou autres, et bien que cela va être une cause qui va mener à ce qu'Allah octroie la bénédiction. Donc la personne, dans ce second cas, elle garde la conviction que c'est Allah qui accorde la bénédiction. Mais elle est tombée dans quelque chose de répréhensible qui mène au polythéisme, au shirk, étant donné qu'elle a considéré comme étant une cause ce qui n'a pas été considéré comme tel par Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ce que les compagnons, les sahaba, radhiyallahu alayhim, faisaient en recherchant la bénédiction des cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de sa salive, ou de ceux qui pouvaient se défaire de son corps sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir que cette pratique-là était spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et spécifique également à son époque. C'est-à-dire cela était permis de son vivant, sallallahu alayhi wa sallam. Pour preuve le fait que les compagnons n'ont pas cherché les bénédictions auprès de ses appartements ou de sa tombe après son décès, sallallahu alayhi wa sallam. De même qu'ils ne cherchaient pas à se rendre dans les lieux dans lesquels le prophète alayhi wa sallam avait prié ou dans lesquels il s'était assis afin d'en chercher la bénédiction. Et à plus forte raison, cela n'est pas à faire dans les lieux fréquentés par les saints. Si cela n'est pas à faire avec les lieux fréquentés par le prophète alayhi wa sallam, alors à plus forte raison, avec les lieux fréquentés par les saints al-awliya. Les anciens de cette communauté ne cherchaient pas la bénédiction des personnes pieuses. Elles ne l'ont pas cherché auprès de Abu Bakr, elles ne l'ont pas cherché auprès de Omar. Et elles ne l'ont pas cherché auprès des autres compagnons de mérite, ni durant la vie de la personne, ni après sa mort. De même que les anciens de cette communauté n'allaient pas dans la grotte de Hira afin d'y prier ou d'y invoquer. Ils ne se rendaient pas non plus à Tour, endroit au-dessus duquel Allah adressa la parole à Moussa, à Moïse. Ils ne se sont pas rendus là-bas afin d'y prier ou d'y invoquer. Et ils ne se sont pas non plus rendus dans d'autres endroits, dans des montagnes qui étaient connues comme étant des lieux dans lesquels avaient pu se rendre des prophètes ou autres. Également, il n'est pas connu que les anciens de cette communauté se sont rendus dans des monuments construits en hommage à un prophète parmi les prophètes. De même qu'il n'est pas rapporté qu'un seul des anciens de cette communauté s'est rendu dans l'endroit dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de prier à Médine. Personne parmi les anciens de cette communauté ne s'est rendu à cet endroit-là afin de le toucher ou de l'embrasser. Ni dans l'endroit dans lequel le prophète alayhi salatu wa sallam avait pu prier à la Mecque. Si cela n'est pas religieusement légitime, avec des endroits qui ont été foulés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'en est-il d'endroits dans lesquels, autre que lui sallallahu alayhi wa sallam, aurait prié ou aurait dormi? Il faut savoir que venir embrasser ce genre de vestiges et en chercher les bénédictions en s'y frottant, les ulama de l'islam connaissent, et ce de manière nécessairement établie de la religion, que cela ne fait pas partie de la charia du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous renvoie donc vers Iqtida al-Sirat al-Mustaqim du cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah. Nous abordons à présent le dernier point. Dernier exemple, concernant donc certaines hérésies relatives au domaine du culte et de l'adoration. Et à notre époque, les hérésies dans ce domaine-là sont nombreuses. La base de tout ce qui a trait au culte et à l'adoration, c'est les textes. Rien de religieusement établi sans preuve. Et tout ce qui n'est pas appuyé par une preuve relève de l'hérésie. Étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque accomplit un acte qui n'est pas conforme à notre religion le verra rejeté. Or, malheureusement, les hérésies pratiquées à notre époque et ne bénéficient donc une preuve sont nombreuses. Parmi ces hérésies-là, le fait de prononcer l'intention de prier à haute voix, en disant, à titre d'exemple, j'ai l'intention de prier pour Allah, telle ou telle prière. Cela est une hérésie, une bid'a. Étant donné que cela ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De plus, Allah, l'exalté, a dit, قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. Donc à s'adresser à son prophète alayhi salatu wa salam, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, donc il a donné l'ordre de dire, allez-vous apprendre à Allah ce que vous faites alors qu'Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre et qu'Allah est omniscient. Surat al-Hujurat, verset numéro 16. La place de l'intention, c'est le cœur. L'intention, c'est donc une œuvre du cœur et ce n'est pas une œuvre de la langue. Parmi les pratiques ne reposant sur aucune preuve et qui sont pourtant répandues à notre époque, le fait de prononcer des formules d'évocation en groupe après la prière. cela, alors que ce qui est religieusement établi, c'est que chaque personne prononce ces formules d'évocation qui ont été rapportées dans les textes de manière isolée, chacun de manière isolée. Parmi les pratiques ne reposant sur aucune preuve et qui sont pourtant répandues à notre époque, il y a également le fait de réclamer que soit récité la Fatiha lors de certaines occasions, après les invocations par exemple, ou qu'elle soit récitée en hommage aux morts. Parmi ces pratiques-là, également ces pratiques hérétiques, l'organisation de banquets en hommage aux défunts et la confection de plats et également la location des services de gens qui viennent pour réciter en hommage aux morts. Ces banquets-là et ces célébrations-là ne sont pas religieusement établies et ne reposent sur aucune preuve. Et ceux qui s'y avancent prétendent que cela ne relève que des condoléances et que cela va venir être profitable aux défunts, alors qu'en réalité, tout cela ne relève que de l'hérésie, qui n'a aucune base dans la religion, et cela n'est que contrainte à propos desquelles Allah n'a fait descendre aucun argument. Parmi ces pratiques-là, la célébration de diverses occasions religieuses, telles que la célébration de l'Isra wa al-Mi'raj, le voyage de l'ascension nocturne, et également la célébration de l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam de l'Égypte. Et toutes ces célébrations-là n'ont aucune base dans la religion. On compte également parmi ces pratiques-là ce qui peut être célébré durant le mois de Rajab. Et parmi ces pratiques qui sont accomplies durant le mois de Rajab, la Umrah du mois de Rajab, et également les différentes adorations qui y sont pratiquées de manière spécifique, comme le fait de venir prier et jeûner de manière spécifique durant le mois de Rajab, alors que ce mois-là ne se distingue pas des autres mois, ni par le fait qu'il soit plus méritant ou méritoire d'accomplir la Omra, ou ni par le fait qu'il soit plus méritoire d'y jeûner, ou d'y prier, ou d'y sacrifier les bêtes, ou autre. Parmi ces pratiques-là également, le fait de s'adonner à différentes formules d'évocation et de rappel soufi. Et toutes ces formules-là, rapportées, instaurées, et inventées par les soufis, en réalité ne relèvent que de l'hérésie. Étant donné qu'elles viennent s'opposer aux formules d'évocation religieusement établies, aussi bien au niveau de la manière de les formuler, que la période durant laquelle elles sont formulées. Parmi ces pratiques-là également, le fait de venir spécifier la nuit Sha'ban, en priant la nuit et en jeûnant le jour, alors qu'il n'est pas établi que le prophète alayhi salatu wassalam a fait cela de manière spécifique. Parmi les pratiques hérétiques répandues à notre époque également, venir construire des édifices sur les tombes et les prendre comme lieu de prière et les visiter afin d'en rechercher la bénédiction et de prendre leurs habitants, c'est-à-dire les défunts, comme intermédiaires auprès d'Allah, ainsi que d'autres parmi les objectifs polythéistes. On compte également parmi ces pratiques-là, liées justement aux tombes, le fait que les femmes viennent les visiter, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les femmes qui visitent les tombes, ainsi que ceux qui en font des lieux de prière et y déposent des lampes. Pour terminer, disons que l'hérésie, c'est une voie menant à la mécréance, al-kufr. L'hérésie, constitue un ajout à la religion qui n'a pas été établie par Allah et qui n'a pas été établie par son messager sallallahu alayhi wa sallam. L'hérésie est pire que la grande désobéissance, pire que le grand péché. C'est là un point très important. L'hérésie est pire que la grande désobéissance, que le grand péché. Satan se réjouit plus de voir quelqu'un commettre une hérésie, il ne se réjouit de le voir perpétrer une grande désobéissance, un grand péché. Pourquoi? Car celui qui commet une désobéissance le fait tout en sachant que c'est une désobéissance, et c'est ainsi qu'il est amené à se repentir de ce qu'il a fait. Quant à l'hérétique, il s'adonne à l'hérésie en ayant la conviction que c'est là une pratique religieuse par laquelle il se rapproche d'Allah. C'est ainsi qu'il ne s'en repent pas par la suite. Les hérésies viennent éradiquer les pratiques prophétiques et viennent enlaidir ces dernières dans les cœurs de ceux qui s'adonnent à l'hérésie. De même que l'hérésie est une cause menant ceux qui s'y adonnent à détester les adeptes de la sunna. L'hérésie éloigne celui qui s'y adonne d'Allah subhanahu wa ta'ala et provoque sa colère ainsi que sa punition. De même que l'hérésie est une cause menant à la déviance et à la corruption des cœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en protège. Parmi les comportements desquels on doit se parer face aux hérétiques, le fait de garder à l'esprit qu'il est interdit de visiter l'hérétique et de le côtoyer, excepté pour le conseiller ou pour le réprimander. Car le côtoiement de l'hérétique va venir influer en mal sur celui qui justement le côtoie. Et va faire que sa maladie va contaminer d'autres personnes. Il est obligatoire de mettre en garde contre les hérétiques et contre le mal des hérétiques. Si nous n'avons pas la possibilité de les empêcher directement de s'abonner à leurs hérésies, il faut tout de même donc mettre en garde contre eux. Et mettre en garde contre eux, leurs hérésies. Et il est obligatoire aux ulama des musulmans et aux dirigeants de ces derniers d'interdire la pratique de l'hérésie et également d'empêcher les hérétiques de s'y adonner, et également il est obligatoire de les réprimander afin qu'ils cessent ce mal-là. Étant donné que le danger venant des hérétiques et menaçant l'islam est prononcé, puis il est obligatoire de savoir que les états mécréants encouragent les hérétiques dans la diffusion de leur hérésie, et ils les aident même, et ce, par différents moyens, étant donné qu'ils ont saisi que c'est là un moyen d'éradiquer l'islam et de salir son image, et nous demandons à Allah Azza wa Jal de secourir sa religion et d'élever sa parole. Et c'est sur cela donc que nous allons nous quitter ce soir. Et nous avons donc pu terminer cette tentative de traduction de cette conférence retranscrite du nom de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et qu'il le récompense en bien et qu'il récompense en bien l'ensemble des ulama de l'islam. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.